Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonsoir. La nouvelle condamnation de Jérôme Kerviel relance le débat sur la déduction fiscale obtenue par la Société Générale en 2008. Nous allons en discuter avec notre invité, Julien Bayou. Le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts demande la restitution de ce bonus de plus de 2 milliards d'euros pour qu'en profitent les citoyens. Mais d'abord, avec Florence Turme, nous reviendrons sur la décision de la Cour d'appel de Versailles qui a condamné l'ancien trader à verser 1 million d'euros de dommages et intérêts à son ancien employeur. Le traité de libre-échange TTIP ne sera pas conclu avant la présidentielle américaine, nous dira aussi Lakshmi Lotha. Conclusion du mini-sommet de Bratislava qui a réuni cet après-midi les ministres européens de l'économie et du commerce. Enfin, des juges d'instruction vont se pencher sur le scandale de la dépakine anti-épileptique prescrit à des femmes enceintes malgré les risques connus. Nous entendrons la réaction de Martine Martin de l'association APESAC, partie civile dans cette affaire. Jérôme Kerviel a donc été reconnu partiellement responsable du préjudice causé à la Société Générale en 2008. La Cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt cet après-midi. Nous sommes dans le volet civil de cette affaire. L'ex-trader devra payer 1 million d'euros de dommages et intérêts à son ancien employeur contre 4,9 milliards d'euros lors du premier jugement qui avait été cassé en 2014. Comment faut-il comprendre cette décision ? Élément de réponse avec vous, Florence Turme.
C'est une décision qui semble convenir à l'une et l'autre des parties, même si elles en livrent deux analyses diamétralement opposées. Dans son arrêt, la Cour d'appel de Versailles déclare Jérôme Kerviel partiellement responsable du préjudice causé à la Société Générale. Elle rappelle d'ailleurs la condamnation définitive prononcée au pénal, 5 ans de prison dont 3 fermes. Et sur ce volet civil, elle le condamne à verser 1 million d'euros de dommages et intérêts à la banque qui lui en réclamait 4,9 milliards. Mais pour autant, Jean Veil, l'avocat de la Société Générale, se déclare satisfait.
Je trouve cette décision tout à fait intelligente, posée et compréhensible par le peuple français. Alors que nous avions une décision qui n'était pas exécutable, puisque 4,9 milliards personnes ne pourraient le payer, en tout cas pas moi, et je ne pense pas davantage M. Kerviel, aujourd'hui, la Cour d'appel, examinant la situation, a considéré qu'il avait la capacité de payer 1 million et le condamne à ce montant-là.
Cela dit, si la Cour d'appel de Versailles a ramené à 1 million le montant des dommages et intérêts, c'est bien parce qu'elle estime que les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus et le préjudice qui en a résulté pour elle, ce que n'a pas manqué de souligner David Koubi, l'avocat de Jérôme Kerviel.
On vous parle depuis 9 ans d'un dossier à 4,9 milliards d'euros. Et en définitive, vous avez ici 28 pages qui fustigent toutes les fautes de Société Générale et qui ramènent ce préjudice à 1 million d'euros. Mais il y a un point qui me semble plus important que ce dont nous sommes en train de parler maintenant. Je vous rappelle que Société Générale avait siphonné 2 milliards d'euros d'argent public. Donc aujourd'hui, quelqu'un à Société Générale doit préparer un stylo et un chéquier. Il paraît que nous avons un budget déficitaire et il paraît que Michel Sapin est en train d'essayer de le boucler.
Allusion au bonus fiscal dont la Société Générale avait bénéficié en tant qu'entreprise déficitaire et victime de fraude, un bonus que Bercy pourrait dès lors lui demander de restituer. Ce soir, le groupe bancaire pense être à l'abri de cette demande, mais les équipes de juristes du ministère des Finances planchent déjà sur les termes de l'arrêt avant de livrer leur propre décision.
Les précisions de Florence Sturm. L'invité du journal de 22h, c'est Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez de publier avec Arthur Vincent Kerviel une affaire d'État, 2 milliards pour la société en général. C'est aux éditions Arcane 17. Une réaction tout d'abord à la décision de la Cour d'appel de Versailles.
C'est un coup dur pour Jérôme Kerviel qui, je pense, espérait sortir complètement dédouané de sa dette à l'égard de la Société Générale. Mais par contre, c'est une énorme nouvelle, une belle victoire pour le contribuable, parce que dans le siège de l'affaire Kerviel, on a donné 2,2 milliards d'euros à la Société Générale qui disait qu'elle était victime d'une escroquerie. Et là, comme la Cour d'appel dit qu'elle est en partie responsable, eh bien, on comprend qu'elle n'aurait jamais dû toucher cet argent.
Alors justement, la justice dans sa décision, elle montre que les torts sont partagés. Elle n'absout pas Jérôme Kerviel. Elle reconnaît des torts à la Société Générale. Dans ce contexte, le remboursement à l'État du bonus fiscal que vous demandez dans votre livre, est-il encore évident, ce remboursement ?
Ce remboursement, il est plus que jamais évident. En fait, il date de 2014. C'est à ce moment-là qu'on aurait dû commencer à récupérer les sommes. En fait, la déduction n'est possible que si la banque n'y est absolument pour rien, ni directement ni indirectement. Or là, la Cour d'appel est très claire, il y a des dysfonctionnements dans tous les sens, des carences hiérarchiques, des manquements, des alertes de sécurité, tout clignote, et la Société Générale ne voit rien, ou peut-être même encourage.
C'est pas ce que dit l'avocat de la Société Générale.
Oui, mais moi je suis pas avocat de la Société Générale, et je suis avocat du contribuable, si je puis dire, et je comprends pas que Michel Sapin tergiverse et tarde à récupérer des sommes. On nous a fait le coup avec Apple, où finalement la France ne va va pas demander sa quote-part, alors que l'Espagne et l'Autriche vont le faire parce que la Commission européenne a dit qu'il y avait de l'argent à récupérer. On a vu avec Engie qu'un grand groupe comme GDF Suez, Engie, pouvait magouiller avec le Luxembourg pour échapper à l'impôt alors que l'État est actionnaire. Et là, il y a 2 milliards d'euros qui attendent de retourner dans les poches des Français et le ministre des Finances tergiverse.
Alors Michel Sapin, le ministre de l'Économie, demande à son administration d'examiner les conséquences sur la situation fiscale de la Société Générale de cette décision. C'est donc trop timide, selon vous?
C'est hyper timide. Écoutez, c'est pas comme si on avait trop d'argent. 2,2 milliards d'euros, c'est le budget entier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est 30 euros par Français, c'est 5 fois l'affaire Tapie. Et on sait que Christine Lagarde, elle va être poursuivie pour avoir agi avec négligence dans l'affaire Tapie. Mais là, c'est la même négligence. C'est-à-dire que Christine Lagarde l'a donné sans attendre la décision de justice. Et là, on a Michel Sapin qui tarde à récupérer l'argent, alors qu'on sait que son administration, elle a déjà enquêté sur le sujet. C'est une enquête qui date de 2012. Ils sont demandés en 2012 pourquoi est-ce qu'ils avaient payé en 2009. Alors, ça peut sembler bizarre, mais du coup, on sait quelle est la réalité matérielle de la situation de la Société Générale. Et puis, il faut enquêter sur toute la situation fiscale et pas uniquement l'année 2008. Là, il y a peut-être un loup.
Alors justement, vous avez lancé une procédure devant la Cour administrative d'appel de Paris pour faire annuler ce que vous appelez donc ce cadeau fiscal de Bercy à la Société Générale. Où en est cette procédure ?
Eh bien, je suis en appel et j'attends l'audience. Évidemment, la décision de la Cour d'appel de Versailles dans l'affaire Kerviel me donne beaucoup, beaucoup plus de poids dans ma demande. Mais il faut quand même prendre un peu le recul et se dire qu'il faut qu'un élu aille devant les tribunaux pour tenter de contraindre le ministre du budget à essayer de récupérer des sommes auprès d'une banque. Une somme qui appartient à tous les Français. Et je pense qu'on en est là, ça dit beaucoup de la société française, de notre démocratie. Michel Sapin, qui a pris comme directeur de cabinet un ancien dirigeant de la banque Société Générale, tarde à récupérer les sommes qu'on lui a donné à la Société Générale.
Dans votre livre, qui est aussi une charge, hein, il faut le dire, contre le monde de la finance, vous expliquez que la Société Générale est considérée comme systémique et que cela a pu jouer un rôle dans l'attribution du bonus fiscal de Bercy. Systémique, c'est un terme qui a été repris la semaine dernière pour parler de la Deutsche Bank qui doit 14 milliards de dollars à la justice américaine. On utilise ce mot un peu trop facilement, selon vous, pour parler des banques?
En tout cas, on ne tire pas les leçons. C'est-à-dire qu'en 2008, on a des banques donc dites systémiques, c'est-à-dire qu'en gros, si elles s'effondrent, ça pose un problème à l'économie. On les a renflouées. On leur a donné plein d'argent pour éviter qu'elles ne tombent. Dans la foulée, on aurait dû en tirer les leçons et donc les séparer. C'est-à-dire qu'il y a les banques de dépôt, là où vous et moi, on a nos économies, et là, elles n'ont pas le droit de jouer au casino avec. Et puis, les banques d'investissement, où elles ont le droit. Mais si elles se plantent, c'est elles qui prennent les pertes. Et on n'a pas tiré les leçons. Et donc aujourd'hui, on en est toujours à renflouer les banques ou à les dédommager pour des escroqueries ou en tout cas à tarder avant de récupérer l'argent. C'est pas du tout du libéralisme. En fait, c'est de la redistribution à l'envers. C'est-à-dire que la petite PME qui se plante parce qu'elle a fait un investissement hasardeux, eh ben elle va tomber. Elle ne sera pas soutenue par l'État ni par les banques. Mais par contre, la banque, elle peut tricher. Elle peut spéculer à outrance avec votre argent. Et elle ne sera pas tenue responsable.
Dernière question, vous qui en appelez à l'esprit de Roosevelt, à un pays qui reprend les rênes de son destin en régulant la finance dans votre livre, comment vous réagissez quand vous entendez qu'une ancienne commissaire européenne a pu être l'administratrice d'une société offshore pendant son mandat?
C'est une trahison, en fait. C'est une trahison morale, c'est une trahison des élites. C'est cette oligarchie qui se donne les pouvoirs et qui une consanguinité incroyable au sein du CAC 40 français, mais aussi des allers-retours entre le privé et le public. Je pense à Emmanuel Macron, qui était dans une banque, puis ministre de l'économie, on ne sait pas ce qu'il fera demain. Tous les conseillers de Manuel Valls et François Hollande qui passent de la banque au cabinet, à Total, etc. etc. Et on se demande, en fait, pour qui ils travaillent. Et voilà. Et en fait, je pense que quand on voit ces conflits d'intérêts, on peut mesurer à quel point ils ne travaillent pas véritablement pour nous, les citoyens, mais plutôt pour leur futur ou ex-employeur.
Merci Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, d'avoir été en direct dans le journal de 22h de France Culture. Le TTIP n'est pas enterré, mais la conclusion de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis attendra la présidentielle américaine. Voilà ce qu'ont décidé les ministres du commerce européens qui se sont retrouvés ce vendredi à Bratislava en Slovaquie. Il n'y aura donc pas de traité avant la fin du mandat de Barack Obama, Lax Milota.
L'objectif initial était de parvenir à un accord d'ici janvier prochain, avant le départ du président américain. Mais la commissaire européenne au commerce a admis que cela semblait de plus en plus improbable. Ces négociations, débutées en 2013, suscitent les réticences de plusieurs États membres, dont la France et l'Autriche. L'accord envisagé avec les États-Unis a de nombreux opposants, ONG, élus de tous bords, syndicats ou militants. Ils l'estiment dangereux pour la démocratie, la sécurité alimentaire ou encore les normes sociales et environnementales. Les États sont divisés. 12 pays, dont l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne, ont ouvertement affiché leur soutien au traité de libre-échange dans une lettre ouverte avant le sommet de Bratislava. Avec les élections aux États-Unis, les discussions seront suspendues de fait, indique la commissaire au commerce. En attendant, les ministres ont apporté leur soutien unanime à l'autre traité, le CETA, conclu avec le Canada. Ce texte doit être signé par les deux parties le 27 octobre.
L'armée française va se doter de fusils HK-416F fabriqués en Allemagne pour remplacer ces célèbres FAMAS dont la fabrication remonte aux années 70, annonce de la Direction Générale de l'Armement. Les livraisons sont prévues dès 2017, elles s'échelonneront sur une dizaine d'années selon la DGA. Fabriqué dans les manufactures de Saint-Étienne, le FAMAS a été utilisé par les troupes françaises pendant près de 40 ans. Pourquoi la Dépakine, cette antiépileptique commercialisée par Sanofi et connue pour être dangereux pour le fœtus, a-t-il été prescrit à des femmes enceintes? Le parquet de Paris, qui avait ouvert une enquête préliminaire il y a un an, a décidé aujourd'hui d'ouvrir une information judiciaire. Des juges d'instruction vont donc enquêter sur ce scandale. Les risques sont connus depuis plus de 30 ans, mais il a fallu attendre 2006 pour que ce médicament soit déconseillé en cas de grossesse. Plus de 12 000 enfants pourraient ainsi souffrir de séquelles. Martine Martin est présidente de l'APESAC, l'association qui se porte partie civile dans cette affaire. Elle est soulagée par ce nouveau pas judiciaire.
Il faut que les responsables assument leurs responsabilités et prennent en charge les dégâts qu'ils ont faits, puisqu'aujourd'hui des milliers, des dizaines de milliers d'enfants sont handicapés, certains sont décédés, les familles sont dans la détresse et psychologique et financière parce que le coût de la prise en charge des enfants est gigantesque. Elles ont dû, les mamans, la plupart du temps s'arrêter de travailler, la plupart du temps et majoritairement dans 40% des cas, donc c'est l'autisme qui est malheureusement le plus grave et le plus handicapant. Puisque ces enfants aujourd'hui autistes, à l'âge adulte, auront toujours besoin d'une tierce personne pour s'occuper d'eux. Et ça, c'est un coût énorme pour les familles. Je suis ravie aujourd'hui que le ministère de la Justice prenne enfin la mesure et l'ampleur du désastre et enquête sur le sujet.
Martine Martin, présidente de l'APESAC, l'association qui se porte partie civile dans l'affaire de la Dépakine. Natacha Bouchard se lance dans un bras de fer avec l'État à propos du mur anti-bruit qui doit protéger une partie de la rocade portuaire de Calais contre les intrusions de réfugiés. La maire de Les Républicains a fait dresser un PV d'infraction sur le chantier et dans 8 jours, elle le fera stopper définitivement si l'État poursuit la construction. Natacha Bouchard estime que ce chantier, financé par la Grande-Bretagne, n'a plus lieu d'être maintenant que la jungle doit être démantelée. Les explications de Mathieu Darrier.
Un agent assermenté de la ville s'est présenté sur le chantier. Il a constaté des infractions au code de l'urbanisme et de l'environnement. Un PV a été établi car le site est protégé et il est situé en zone de risque technologique avec 2 usines Seveso à proximité. Des arguments juridiques contre un mur dont Natacha Bouchard ne veut plus. La priorité, c'est la disparition de la jungle.
Très clairement, c'est la crainte de se dire on nous annonçait un démantèlement avant la fin de l'année, que c'est peut-être pas tout à fait qui va être fait puisque le maire de Calais ne sait pas quand, comment, parce que si c'est pour dire ah bah oui mais non maintenant le démantèlement ça va se faire en 6 mois, 7 mois pour qu'au bout du compte on voit revenir au fur et à mesure les migrants. Moi ce démantèlement on nous l'a promis, c'est un engagement du ministre. Mais comme il nous a dit que ça se ferait avant la fin de l'année, pour moi, le mur n'a pas lieu d'être.
Ce mur qui focalise toutes les attentions n'est en fait que le prolongement sur 1000 mètres jusqu'à la zone d'activité économique voisine, des dizaines de kilomètres de barrières doubles et parfois triples rehaussées de barbelés qui ont été installés ces derniers mois tout autour du port de Calais et du tunnel sous la Manche.
Mathieu Darrier de France Bleu Nord pour France Culture. La préfecture du Pas-de-Calais estime dans un communiqué que ce chantier doit se poursuivre car arrêter la construction de ce mur enverrait un message d'impunité aux passeurs. Alors qu'un déluge de feu s'est abattu sur les quartiers rebelles d'Alep en Syrie depuis hier soir, causant la mort de 30 civils et qu'une offensive terrestre du régime se prépare, la communauté internationale semble toujours incapable d'arrêter le conflit qui a fait plus de 300 000 morts et engendré la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce soir à New York, le secrétaire d'État américain John Kerry fait état de petites avancées après une nouvelle entrevue avec son homologue russe Sergueï Lavrov, cela au lendemain d'un nouvel échec des discussions du groupe international de soutien. soutien à la Syrie. Enfin, en Colombie, les rebelles marxistes des FARC ont approuvé à l'unanimité l'accord de paix conclu avec le gouvernement et l'idée de former un nouveau parti politique. 10 représentants non élus seront envoyés au Parlement jusqu'en 2026. C'est maintenant aux Colombiens de se prononcer sur cet accord qui prévoit également une réforme agraire, la fin du commerce de la drogue, l'indemnisation des victimes et la démobilisation des FARC. Un référendum est organisé le dimanche 2 octobre, un scrutin qui pourrait donc marquer la fin d'un demi-siècle d'insurrection qui a fait 250 000 morts. La météo de votre samedi sera ensoleillée partout en France, sauf sur la façade ouest où il y aura quelques nuages. Les températures de votre matinée, 17 à Strasbourg, 18 à Paris et Brest, 19 à Lille, 20 à Amiens, 22 à Bordeaux et 24 à Ajaccio.